Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue, votre clin d'œil sur l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, le documentaire du réalisateur Guillaume Ribault, Je n'avais que le néant, est présenté au Festival du film juif de Toronto. Annette Minka l'a rencontré.
Le film fait quelque chose aux gens, mais différemment. Les gens, ils ne disent pas « c'est un super beau film ». Ils sont touchés par quelque chose dans le film. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider en tant que réalisateur. On ne sait pas ce que ça va faire avec les gens.
Voir et ressentir la nature autrement, la réalité virtuelle se met au service de l'expression artistique.
Ce qu'on retient de l'exposition, souvent, c'est un petit peu moins l'émotion ou le concept derrière l'exposition, mais c'est le choc de nos sens.
Comment survivre en 1859 à une tempête solaire apocalyptique? Des élèves du Nouveau-Brunswick se débrouillent avec les moyens du bord et présentent leurs solutions en kiosque.
On a identifié des besoins. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Est-ce qu'on a besoin de reconstruire la civilisation? Là, ils sont prêts de vendre leurs produits comme un vrai marché. Là.
Une page importante de l'histoire des Acadiens du Cap-Breton est racontée dans une dramatique radiophonique réalisée par le théâtre francophone.
C'est important que tout le monde sache à propos de cette histoire puis qu'il y avait des Acadiens ici à ce temps-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savait qu'il y avait des Acadiens à ce temps-là à Sydney.
Bienvenue à Point de vue, l'information info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour et bienvenue de nouveau. Merci de nous accompagner pour cette prochaine demi-heure. Boris Chassagne au micro. Je serai en compagnie de nos journalistes postés à Toronto, Ottawa, Miramichi et Chiticamp aujourd'hui. Alors on se lance, escale le 7e art pour vous parler du nouveau documentaire du réalisateur français Guillaume Ribault intitulé « Je n'avais que le néant, Shoah » par Landsman. Mais il a été présenté le 8 juin dernier au Festival du film juif de Toronto, le festival qui se conclut le 15 juin dans la ville Rennes. Une première nord-américaine pour ce documentaire consacré au film Coup de poing Shoah de Claude Landsman, sorti bien avant, en 1985. C'est en fait un film sur un film, et pas n'importe lequel. Il a été réalisé par Ribault à partir de centaines d'heures d'images non utilisées du film de Landsman. Interrogé sur son processus de création, Guillaume Ribault insiste : Je n'ai pas cherché à dénaturer ce film monument, je me suis inscrit dans la même radicalité que Claude Landsman. Ce film a été présenté donc lors de la 33e édition du Festival du film juif de Toronto. Près de 80 films de plus de 25 pays y prennent l'affiche. Annette Minka a eu le plaisir de s'y rendre et de rencontrer le réalisateur.
Ce sont les voisins qui lui ont dit « laisse la porte ».
Les voisins d'en bas.
Laisse la porte fermée.
Dürfen Sie eigentlich unerlaubt filmen? Oder Leute, die nicht gefilmt werden wollen, aufnehmen?
Je n'avais que le néant, Shoah, par Landsman, est un documentaire du réalisateur français Guillaume Ribault, présenté en première mondiale le 17 février 2025 dans la section Berlinale spéciale du Festival international du film de Berlin. Ce documentaire revient sur la genèse de Shoah, l'œuvre monumentale de Claude Landsman consacrée à l'extermination des Juifs d'Europe. À l'occasion de sa première nord-américaine, le 8 juin prochain au Festival du film juif de Toronto, nous avons rencontré Guillaume Ribault pour évoquer avec lui son désir de mettre en lumière le travail de Claude Landsman, ainsi que son propre processus de création autour de ce film hommage.
Pourquoi avoir fait le choix de ce sujet, de la Shoah ?
C'est pour des raisons personnelles, mais professionnelles d'abord, parce que j'étais photographe de presse et je suis allé suivre des lycéens en visite à Auschwitz pendant une journée. Et j'ai été très marqué par cette visite, moi personnellement. Je n'avais jamais travaillé sur la Shoah, l'Holocauste, etc. C'était pas, ma famille n'est pas juive, donc je n'ai pas de liens familiaux avec ça, même si en un an après, je l'ai découvert. Mais et je suis rentré le lendemain à la conférence de rédaction et on m'a posé une question assez incroyable qui aujourd'hui encore m'estomaque. C'est alors c'était comment Auschwitz? Et là, je me suis dit waouh. Comment on peut poser une telle question sur un tel lieu? Et à partir de là, j'ai changé mon métier de photographe de presse. Je suis devenu photographe auteur. J'ai fait des livres, des expos. Après, je suis allé travailler pendant 4 ou 5 ans en Ukraine, en Biélorussie, sur la trace des Einsatzgruppen qui assassinaient les Juifs dans les villages, etc. Donc, j'ai rencontré des centaines de témoins. Et à un moment, je trouvais que ça n'était plus possible. Et j'ai décidé de devenir réalisateur. Et j'ai voulu raconter quelques mots que m'avait dit ma grand-mère. Tu sais, j'ai caché des enfants juifs pendant la guerre. Elle me l'avait jamais dit. Et là, je me suis dit, ma grand-mère était en train, sur la fin de sa vie, je croyais qu'elle mélangeait un peu tout, mon travail, ses souvenirs. Et en fait, je suis allé enquêter dans ma famille, c'est l'objet de mon premier film, pas tout à fait abouti, mais c'est un film très personnel, qui s'appelle Le cahier de Suzy. Et en allant faire ce film, j'ai découvert le cahier d'une petite fille qui s'appelle Suzy Felsberg et sa petite sœur Élise. Je tiens toujours à dire leur prénom et leur nom. Elles avaient 11 et 9 ans. Et ce cahier qui s'arrête en juin 1942, c'est les derniers mots qu'elle a écrits. Et parce que 2 mois après, elle a été gazée à Auschwitz avec sa sœur. Et à partir de là, j'ai décidé de lancer ma carrière de réalisateur et j'ai fait d'autres films sur ce sujet-là. Et tout ça pour dire que ça, c'est 27 ans de ma vie. Donc, si au départ, je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était peut-être pour redonner un nom à Suzy et à Élise que tout le monde a oublié. C'est normal, comme tant d'autres. Mais elles sont là toujours avec moi. J'ai leurs photos dans mon portefeuille, comme avec mes 3 filles. J'ai 3 enfants et j'ai 2 enfants. Je pense depuis. Voilà.
Que souhaitiez-vous montrer ou transmettre à une nouvelle génération de spectateurs à travers ce documentaire ?
En fait, Shoah est un film particulier par sa forme et par sa longueur, sa durée. Et je voulais, dans un premier temps, expliquer ce qu'était le film Shoah et surtout comment il a été réalisé, sans que ce film soit un making-of, mais quand même expliquer comment un réalisateur, en partant du néant, a pu réaliser un tel film. Et c'était surtout pour éclairer cette formidable aventure cinématographique. Mais aussi, je me suis rendu compte, en le faisant et en le montrant maintenant, que ça, je l'avais pas tout à fait prévu, mais aujourd'hui, ça semble assez évident que ce film est un pont vers Shoah. Il permet, parce que Shoah fait 9h30. Aujourd'hui, à notre époque, il est rare que les gens regardent des films aussi longs, sur un sujet extrêmement difficile, mais je pense que ce film, sans concurrencer Shoah, moi je n'ai jamais voulu faire un doublon de Shoah ou utiliser, etc. Moi c'était vraiment accompagné, et c'est Dominique Lanzmann, la veuve de Claude Lanzmann, qui m'a dit « mais aujourd'hui je n'avais que le néant et le vrai compagnon de Shoah, et j'espère que ça va durer ». Et voilà, aujourd'hui je ne le savais pas, mais j'espère que ce film peut être le compagnon et un pont vers la nouvelle génération.
Et justement, je vais rebondir là-dessus, sur le titre « Je n'avais que le néant ». Pouvez-vous nous parler de cette phrase et de cette signification ?
Le titre qui arrivait très très tard, quelques jours avant, les 15 jours avant d'aller au Festival de Berlin, on n'avait pas de titre. Et c'est en relisant une interview que j'avais donnée en anglais, une interview qui avait été traduite, et le titre « Je n'avais que le néant » en anglais, je le trouve très beau, c'est « All I had was nothingness ». Et je trouve qu'il y a quelque chose de... Le mot « nothingness » m'a vraiment interpellé. Et en fait, cette phrase, elle est au début du film. Et souvent, on a cherché pendant des mois un titre qui pouvait coller à mon film, parce que souvent, on cherchait des titres qui parlaient de Shoah. Et en fait, c'était pas ça du tout. Il fallait que je donne quelque chose à mon film. Et « Je n'avais que le néant », c'est ce qu'avait Claude Lanzmann. C'est exactement ce qu'il dit au début du film. Il dit « Je voulais filmer, je voulais faire un film, mais je n'avais que le néant ». Parce qu'il fait son film à peu près 30-35 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les traces n'existent plus. Donc il s'est demandé avant comment il allait pouvoir faire. Il était sûr qu'il allait faire ce film, mais il ne savait pas comment. Et je trouvais que le néant, c'est le néant physique de toute personne qui fait des photographies ou qui filme les lieux. Les lieux, il n'y a plus rien. Il reste encore évidemment quelques ruines à Auschwitz, des barbelés, etc. Mais lui, Claude Lanzmann, parle d'autre chose. Il parle de Treblinka au milieu d'une forêt, car les nazis, après avoir terminé leur œuvre maléfique, ont rasé tous les camps et ils ont planté des forêts dessus. Donc, il n'y a plus rien. Donc, Claude Lanzmann est arrivé et il a dû inventer quelque chose à partir du néant. Et ça m'a beaucoup touché, créer à partir du néant.
Claude Lanzmann avait une manière assez particulière, parce que j'ai regardé aussi sur Arte le film, il avait une manière très particulière de filmer et d'interroger. Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça ? Est-ce que vous avez gardé cette même approche, cette même distance ? Comment vous êtes positionné par rapport à lui, la manière dont il travaillait ?
Ça a été au moment où j'ai compris que j'avais envie de faire ce film. C'est les premiers mots, vous savez, quand on fait un film, on fait une note de réalisation pour les dossiers de production, pour les producteurs et pour les diffuseurs ensuite. Et on doit dire quelle est l'intention dans ce film. Et moi, c'était très clair. Je voulais m'inscrire dans la radicalité de Claude Lanzmann, c'est-à-dire pas de musique additionnelle, pas de voix off qui nous explique tout ce qui se passe, pas de fondu enchaîné, pas de fondu noir. Vous avez dû le remarquer dans ce film, il n'y a aucune inscription pour dire où on est, qui sont les gens. Tout passe par la parole, par l'échange. Et ça, c'est ce qu'a fait Claude Lanzmann. Moi, je suis encore plus radical que Claude Lanzmann. Lui mettait les noms. Moi, je n'ai rien mis. Et je m'étais dit, il faut absolument, pour pouvoir, d'une part, avoir la confiance de Dominique Lanzmann, c'est pas faire un film à la manière de Guillaume Ribault, pas du tout. C'était, je voulais m'inscrire dans la radicalité de Claude Lanzmann en respectant les grands principes de son film. Pour moi, c'était essentiel parce que le plus dur dans ce film, vraiment, je suis là-dessus, je suis sûr de moi, le plus dur, c'était de trouver ma place en tant que réalisateur. Il y a un film qui est rentré au patrimoine de la mémoire du monde de l'UNESCO. C'est un des plus grands films sur ce thème et un des grands films du cinéma. Mais je ne pouvais pas faire quelque chose qui est illustré. J'avais besoin, je le disais tout à l'heure, d'accompagner. Je ne me comparerai jamais à Claude Lanzmann, jamais à Shoah, mais ce film accompagne. Et c'était ça, c'était trouver ma place, respecter les grands chefs opérateurs qui étaient avec lui, William Lutyanski par exemple. Et puis ce souci du cadre, ils venaient tous de la fiction, donc il y avait un souci du cadre. Et puis respecter aussi la manière dont Claude Lanzmann était présent à l'écran. Moi, il est là presque pendant 90 minutes, on le voit tout le temps. Il habite l'espace, et dans Shoah, c'est déjà le cas. Donc en fait, je pense, je l'espère, avoir respecté et rendu hommage au travail de Claude Lanzmann et à son film Shoah.
Comment avez-vous accédé aux archives de Claude Lanzmann, et quel a été pour vous le plus grand défi dans leur traitement de ces archives?
Pour faire une toute petite chronologie, j'ai lu le livre de Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie, ce sont des mémoires, et ensuite j'ai appris qu'il y avait à l'Holocaust Museum à Washington, qu'il y avait les 220 heures de Rush non utilisées du film, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, oh, c'est incroyable, je ne savais pas que j'allais faire un film encore, je me suis dit, oh là là, les deux ensemble, ça marche très bien. Voilà, l'idée est venue comme ça. Et donc, cette mine d'informations qu'il y avait dans le livre, de révélations, d'intimité d'un cinéaste, ajoutée à l'incroyable intimité des Rush, parce que là, on découvre tout ce qu'il n'y a pas dans Shoah, parce que à l'Holocaust Museum, il y a 220 heures, mais il n'y a pas les Rush de Shoah, qui sont dans le film Shoah. Donc moi, j'avais accès à un matériau inutilisé, et j'ai dû regarder tous ces rushs, je les ai annotés sur ma table de montage, etc. Et j'ai eu aussi la chance, grâce à Dominique Lanzmann, d'avoir accès à toutes les archives du film Shoah. Parce que Shoah, c'est un film qui a commencé en 1976, qui s'est terminé en 1985, à peu près, je donne ces bornes-là. Et tout était, le numérique n'existait pas. Donc tout est écrit. Donc il y a beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses, des billets d'avion, des cartes annotées par Claude Lanzmann, des polices d'assurance dans lesquelles on découvre qui était sur le tournage, etc. Et puis le script de tous les témoins, ça c'était absolument incroyable, avec les annotations de Claude Lanzmann, les annotations de montage. Donc en fait, au fur et à mesure que je découvrais toutes ces archives, j'accédais à l'intimité d'un film et d'un réalisateur au travail. Et je crois que c'est, je l'espère, ce qu'on ressent dans mon film.
Dernière question, Guillaume. Quel rôle souhaitez-vous que ce film joue dans la réflexion contemporaine, moderne, sur la mémoire de la Shoah?
Je ne sais même pas si c'est à moi de définir ce que ce film, quel doit être son rôle. Ce film, il se place dans mon histoire. Ce film, il n'est pas là pour changer quoi que ce soit sur... Moi, je livre des choses. Je ne sais pas comment les gens vont le prendre. Je sais comment les gens le prennent aujourd'hui, parce que on l'a montré à Berlin, dans un grand festival. J'ai vu l'effet que fait ce film sur les gens. Et pardonnez-moi, je veux pas être trop présomptueux, mais je sais que le film fait quelque chose aux gens, mais différemment. Les gens, ils ne disent pas « Ah, c'est un super beau film ». Ils sont touchés par quelque chose dans le film. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas décider en tant que réalisateur. On sait pas ce que ça va faire avec les gens. Et là, je pense que mon film peut toucher les gens pour plein de raisons différentes. Pour des raisons communautaires, pour des raisons familiales, pour des raisons contemporaines. Je crois que ce film, il a une forme contemporaine qui peut parler aux contemporains. Je crois que c'est ça. Mais ce que ça va faire aux gens, c'est le film qui le dira, c'est pas moi.
Cette entrevue a été réalisée par Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
ressentir la nature autrement, c'est ce que propose le centre de production Diamond à Gatineau, qui présente jusqu'au 19 juin l'expo immersive « Nouveaux environnements, approcher l'intouchable ». Cette exposition prend la forme d'un parcours de réalité virtuelle. Elle présente 6 œuvres numériques réalisées par 7 artistes québécois. Casqués d'une visière de réalité virtuelle, les visiteurs naviguent librement entre 6 portails virtuels, chacun menant à une œuvre différente. Une expérience unique, selon la médiatrice Camille Saussier, qui relève la charge émotionnelle qu'induit cette expo d'art numérique. Gabrielle Poulet en a fait l'expérience.
Jusqu'au 19 juin, le centre de production Diamond à Gatineau accueille « Nouveaux environnements, approcher l'intouchable », une exposition immersive en réalité virtuelle qui réunit 6 œuvres numériques signées par 7 artistes du Québec. Produite par l'organisme Molière et commissariée par Nathalie Bachand, l'exposition propose une réflexion sensorielle et poétique sur la nature, l'environnement et le vivant. Le visiteur, équipé d'un casque de réalité virtuelle, se retrouve au centre d'un espace circulaire ponctué de 6 portails, chacun menant à une œuvre indépendante. Pour Camille Saussier, médiatrice au Centre Diamond, c'est justement cette liberté de parcours qui rend l'expérience aussi personnelle.
C'est dans le nom de l'exposition, c'est Nouveaux environnements. C'est une immersion 4D, mais qui est complètement différente de, par exemple, notre expérience sensorielle de tous les jours, parce que là, on fait vraiment un choix de confiance, en fait, de choisir consciemment de s'immerser dans quelque chose, un, qui nous est inconnu, puis qui est complètement déconnecté de nos sens réels, dans le fond. C'est totalement une expérience qui peut susciter des grosses émotions, qui même chez des gens, en fait, comme toi, pour qui ça a été la première expérience de réalité virtuelle, ce qu'on retient de l'exposition, souvent, c'est un petit peu moins l'émotion ou le concept derrière l'exposition, mais c'est le choc de nos sens.
Au fil de ce parcours immersif, on découvre notamment les créations de Caroline Gagné, François Quévillon, Olivia McGilchrist, ainsi que celles du duo Laurent Lévesque et Olivier Henley. 3 des œuvres ont été produites spécialement pour l'exposition par Molière, un organisme qui œuvre dans le domaine de l'art numérique depuis plus de 20 ans. Mais au-delà de la technologie, Camille Saussier insiste sur l'impact émotionnel du médium.
Les œuvres qui sont présentées dans l'exposition ne cherchent pas toutes à nous faire sentir relaxés ou un sentiment de bonheur ou de joie. En fait, il y a certains des artistes qui, intentionnellement, en fait, veulent provoquer chez nous des petits malaises ou des sentiments d'inconfort ou un sentiment même de désorientation, de dépersonnalisation. Puis c'est toutes des émotions, en fait, qui sont bien intentionnelles puis qui n'ont pas besoin d'être négatives, en fait. Puis l'expérience de l'exposition, dans le fond, vient regrouper toutes ces expériences-là puis permettre aux visiteurs, tu sais, de se poser des questions, de... Mais tu sais, qu'est-ce que mon corps comprend par rapport à ce que mon esprit comprend de cette expérience-là?
Selon elle, cette approche immersive permet d'aborder des questions complexes avec sensibilité, notamment la place du numérique dans l'art.
Le défi de l'art médiatique, de l'art numérique, c'est le développement effréné des nouvelles technologies en combinaison avec l'obsolescence programmée qui fait que si, mettons, on voulait archiver cette expérience-là, on voulait archiver nouveaux environnements approchés d'intouchables, ça serait pas juste une question de préserver les œuvres, mais ça serait une question de préserver tout l'équipement qui nous permet de faire l'expérience de l'œuvre. C'est des grands défis là, pour l'art numérique, pour l'art médiatique, mais c'est des questions qu'on se pose actuellement, puis c'est aussi des questions que se pose la boîte de production qui a conçu l'exposition. Puis c'est un peu faire l'état des lieux de est-ce que ça marche? Si ça marche, combien de temps ça dure? Puis est-ce que ça va nous être utile plus tard? Puis est-ce qu'on va pouvoir le conserver en l'entretenant assez pour être capable de refaire cette expérience-là, mettons, dans 20 ans?
L'exposition « Nouveaux environnements, approcher l'intouchable » est accessible gratuitement sur réservation et se poursuit jusqu'au 19 juin au Centre Diamond dans le secteur Hall. Gabrielle Poulin, IGL, Ottawa.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Eh bien, des fois, j'entends des choses qui me donnent envie, je vous le dis, de retourner à l'école, croyez-le ou non. On nous parle d'échanges internationaux, de bourses de production, de chercheurs invités émérites, de voyages d'immersion linguistique ou de coopération internationale. Eh bien, voilà, aujourd'hui, des élèves peuvent vivre, comme j'aime, tant au cinéma, des scénarios même apocalyptiques. Oui, oui, des élèves de l'école du Carrefour Beau Soleil de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, se sont fait imposer une simulation d'une apocalypse signée par la tempête solaire du siècle. Une crise qui a été transformée en un marché étudiant à l'école Carrefour Beausoleil. La fin de l'année, on le sait, arrive à grands pas. Et pour la célébrer, l'école organisait donc un marché artisanal sur le thème du survivalisme. Rien ne fonctionne depuis la tempête solaire de 1859 qui paralyse les réseaux électriques. Comment vous faites pour survivre? Bon, rappelons que l'ampoule électrique a été brevetée en 1879 par Edison, mais en tout cas. Les élèves, donc, ont été mis en situation. Ils ont présenté leur solution allant du pain aux savons artisanaux. La communauté a pu se délecter de leur créativité en visitant les différents kiosques déployés à la cafétéria du Carrefour communautaire Beausoleil. L'enseignant Mathieu Richard surveillait la tenue de l'événement. Il semble avoir beaucoup apprécié. Il veut même le faire revenir l'an prochain. Vincent Lavoie leur a rendu une visite furtive.
Quelques centaines de personnes se sont déplacées au Carrefour communautaire Beausoleil mercredi pour visiter un marché étudiant. Le tout a été rendu possible par l'organisme Place aux compétences basé à Chédiac. L'école Carrefour Beausoleil était parmi la poignée de projets retenus pour une demande de financement. Voici Mathieu Richard, enseignant titulaire de 8e année.
On a gagné Place aux compétences. On a fait une demande de financement pour un projet de genre survie suite à un apocalypse, un événement Carrington. C'est ça, on a gagné un prix aujourd'hui. Puis ceci, c'est le fruit de nos travaux.
L'événement Carrington fait référence à un événement astronomique survenu en 1859 où une tempête solaire particulièrement puissante a frappé la Terre, paralysant plusieurs réseaux électriques. Dans la même veine, les étudiants devaient proposer des solutions sans avoir recours à l'électricité.
Il y avait besoin d'identifier un besoin. Puis ensuite, à partir de ce besoin-là, ils ont développé différents projets. Il y en a qui ont fait du pain, du beurre, maison, comme avec leurs mains. Tout plein de différents projets de nourriture, du savon même pour l'hygiène. Donc, on a identifié des besoins. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Est-ce qu'on a besoin de reconstruire la civilisation? Puis ensuite, les élèves ont pris ça en main. Nous autres, on a fourni le matériel qu'ils avaient demandé, puis eux ont été avec ça. Puis là, ils sont prêts de vendre leurs produits comme un vrai marché. Là.
Un concept qui se transpose à plusieurs matières.
Il y avait des composantes de cours de sciences, cours de mathématiques avec la vente, comment est-ce que les choses ont coûté, qu'est-ce que le prix de vente, qu'est-ce que le profit, un peu de sciences aussi avec l'agriculture, le groupe d'agriculture, la levure aussi, ça, en lien avec les sciences, les règnes. Donc, on a essayé le plus possible d'intégrer tous différents cours. Leur pancarte, il fallait que ce soit écrit, ça va être évalué, que ce soit bien écrit en français et en anglais, parce qu'en milieu minoritaire, il y avait des parents, c'est juste pour qu'on ait les deux langues.
L'événement est considéré comme un franc succès et certains des élèves de 6e et 7e année pourraient poursuivre leur projet l'année prochaine. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
On reste dans l'est du pays pour vous parler d'un moment de l'histoire qui a été adapté dans une dramatique radiophonique grâce au théâtre francophone qui reprend du collier du côté de la ville de Sydney en Nouvelle-Écosse. Les Noces de Marguerite relatent une page importante de l'histoire des Acadiens du Cap-Breton. Elle est racontée dans cette dramatique radio signée Ronald Labelle et elle a été présentée il y a quelques jours au St. Patrick's Church Museum de Sydney. Ronald Labelle s'est servi donc de documents d'archives pour pénétrer dans l'univers des Acadiens qui ont habité la baie des Espagnols. L'historien qui ajoute que les Acadiens entretenaient une méfiance à l'égard des Français. Gisèle Béliveau incarne dans cette dramatique radiophonique le rôle de la Marguerite en question. « J'ai appris, dit-elle, que la lutte des Acadiens a également eu lieu à la baie des Espagnols. Les Français de Louisbourg n'étaient pas une source d'appui pour eux, surtout s'ils avaient des alliances avec les Micmacs. » Les précisions de Daniel Aucoin.
L'historien et ethnologue Ronald Labelle a parcouru toute la documentation entourant la noce entre Marguerite Guédry et le chevalier Félix de Lanoue, célébré le 11 février 1754. Ronald Labelle explique qu'en février 1754, les Acadiens établis à la baie des Espagnols, le lieu qui deviendra Sydney, sont mal vus par les autorités locales coloniales à Louisbourg. Lorsqu'un officier français tente de se marier avec une jeune Acadienne nommée Marguerite Guédry, un scandale éclate. Les noces de Marguerite, présentées à Sydney, démontraient un portrait intime de la vie acadienne à la veille de la déportation. Ronald Labelle souligne qu'il s'agit d'un drame basé entièrement sur des faits et des personnages réels.
Tous les personnages ont existé. Il n'y a aucun nom inventé. Marguerite Guédry, ses parents, son père Paul, sa mère Anne, ses frères, les voisins, les cousins, les soldats, le sergent de Louisbourg qui vient, tout le monde, ça vient tout de la documentation écrite. Parce qu'en plus du procès, ben, il y a eu des recensements. 1752 et 53, il y a eu deux recensements. On sait exactement qui était ici. On sait que à l'époque, il y avait 330 Acadiens qui vivaient dans la région de Sydney, autour de ce qui est maintenant Sydney, Point Edward, jusqu'à Sydney River, et tout dans le coin.
Avec la participation en chansons et en paroles de 14 comédiens de la communauté francophone de Sydney, Les Noces de Marguerite étaient présentées comme pièces radiophoniques. Les comédiens Catherine Farrell et Jean-René Bourgeois nous parlent de l'importance de la pièce pour explorer la vie acadienne avant la déportation des Acadiens.
Pour moi, ça me cherche beaucoup parce que je trouve que même qu'on a une belle communauté francophone, on est encore en train de se battre pour nos langues tous les jours. Puis on voit les mêmes tendances à tous nos jours, puis c'est important que tout le monde sache à propos de cette histoire, puis qu'il y avait des Acadiens ici à ce temps-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savait qu'il y avait des Acadiens à ce temps-là à Sydney.
Moi, c'est intéressant parce que, comme tu dis, j'ai passé au-dessus d'une vingtaine d'années à Louisbourg. Ça fait que je savais beaucoup de l'histoire de Louisbourg, mais ça, c'était du nouveau un peu. L'idée que c'est vraiment une vraie histoire, puis le monde de Louisbourg avant donné de la misère à ma fille Marguerite. Ça fait que c'est vraiment intéressant l'idée que c'est basé sur de la documentation. Je pense que Ronald disait l'autre jour qu'on a trouvé à peu près une centaine de pages concernant le questionnage qu'on a fait de Louisbourg envers Marguerite. Puis ça fait que c'est très, très intéressant l'idée que c'est très bien documenté.
Ici Daniel Aucoin pour IJL Achetica.
Et vous signaler en terminant que notre journaliste posté à Gaspé, Toby Germain, s'apprête à vivre l'arrivée de milliers de touristes venus se rincer les yeux. Des plaisirs qu'offre sa région et le magnifique bord de mer dans lequel il habite et travaille, la Gaspésie. Vous savez que les touristes inondent chaque été au Québec et sûrement ailleurs au Canada, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de Charlevoix, des Laurentides et de l'Estrie, entre autres choses. Les Québécois qui, en somme, aiment profiter de la belle saison dans la belle province, et Toby Germain qui nous offre depuis quelques jours toutes sortes de nouvelles qui touchent sa région et le bord de l'eau, comme celle qui a officiellement lancé la saison touristique à Lens, à Beaufils. Il nous parle d'entreprises qui ont été récompensées cette année, comme les pêcheries gaspésiennes. Il nous parle du circuit des arts, de la Gaspésie gourmande, ou du projet de capitale des pêches maritimes de Rivière-aux-Renards, qui connaîtra sa première saison complète d'opération cette année. Eh bien, toutes ces nouvelles de Toby Germain et de tous nos journalistes, il y en a 4000 de vous attendre sur fréquenceinfo.ca. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on vous quitte cette semaine. Merci à nos journalistes aujourd'hui. Vincent Lavoie, Daniel Aucoin, Toby Germain, Annette Minka et Gabriel Poulin. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là. À la semaine prochaine. Ciao.
Fréquenceinfo.ca
radio@fréquenceinfo.ca.